Alors Ambre et Mathieu, eh bien, vous allez vous engager tout à l'heure pour la confirmation de l'alliance de votre baptême. Et quand j'ai vu le texte proposé pour aujourd'hui, parce que le texte de Mathieu est commun avec nos amis catholiques, eh bien je me suis dit qu'il était approprié. Parce que même si nous ne sommes pas à Pentecôte, même si la crise sanitaire nous oblige à décaler et à faire autrement, eh bien ce texte parle de fête. Alors bien sûr, la fête ne sera pas complète, vous avez dû restreindre le nombre de vos invités, les repas ne seront pas comme vous auriez sans doute imaginé, mais nous pouvons quand même être heureux et faire la fête avec vous. Et notre Église tout entière est là pour vous entourer, pour entourer vos familles et pour vous accueillir. Et je pense que dans notre assemblée, il y en a pas mal qui vous connaissent depuis longtemps et qui sont vraiment heureux de ce moment-là. Et vous m'avez dit tous les deux, dans notre préparation, qu'il était important pour vous d'entrer dans la communauté chrétienne, et j'ai l'impression que le confinement a attisé encore ce désir. Alors souvenez-vous de ce désir, parce que même si par la suite vous changez de communauté locale, eh bien, parce que vous allez faire des études, vous allez travailler, vous allez déménager, eh bien, l'Église sera toujours là pour vous accueillir. Alors, entrer dans la communauté, c'est dire oui à cette invitation. Et l'histoire de la parabole nous montre cette invitation de Dieu. L'Église relaye cette invitation incroyable et invisible, surtout. C'est ça qui est difficile. Mais ce texte n'est pas un texte facile et révèle que finalement, la communauté de foi n'est pas hors du monde. Tout n'est pas parfait. Alors quand Jésus raconte la parabole, on en a parlé la semaine dernière, la tension monte parce que Jésus est à Jérusalem. Il se confronte directement avec les chefs religieux et on n'est plus qu'à 5 chapitres de la mort de Jésus. C'est vrai qu'il faut quand même se rappeler, surtout dans les moments difficiles, que celui que nous suivons, Jésus-Christ, a quand même été arrêté et tué. Il a dérangé. Vouloir aimer et rester dans la lumière de la vérité n'est pas confortable. Et c'est comme cela que je comprends la violence de ce récit. Les serviteurs qui viennent relayer l'invitation du maître se font maltraiter et même tuer. Et la dernière fois, on a vu aussi que des prophètes, c'était le sort réservé à certains prophètes. Et dans l'évangile de Matthieu, en fait, on voit qu'à la mort de Jean-Baptiste, Jésus est très affecté. Il est touché, il se met à l'écart. Et on a vu dans nos années de catéchisme, en tout cas avec moi je suis là que depuis 2 ans, mais on a vu combien Jésus avait vécu toutes les palettes des émotions humaines. Il a vécu aussi avec la peur, il a vécu aussi avec les mêmes incertitudes que tout être humain. Il a subi le mensonge, la trahison, les pièges, et puis il a été arrêté parce que son existence dérangeait. Il mettait trop de choses en lumière, et notamment la mauvaise attitude des chefs religieux. Oui, la fête de Dieu dérange. L'invitation pour tous dérange. Et dans cette histoire, vous avez peut-être remarqué, les gens qui entrent dans la salle du banquet ne sont pas meilleurs que les autres. Le texte dit, les serviteurs rassemblent tout ce qu'ils trouvent, bons et mauvais. La seule différence qu'ils ont avec les invités précédents, c'est qu'ils acceptent d'entrer. Alors l'Église, c'est un peu pareil, au risque de vous décevoir, tout le monde n'est pas forcément bon. Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit une fois, l'Église est imparfaite à partir du moment où tu y entres. Voilà. Alors il faut savoir que dans l'Église, c'est pas que les gens sont meilleurs, mais que les gens savent justement qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres. Et qu'ils ont besoin de cette lumière de Jésus-Christ et qu'ils ont besoin de son amour pour être guidés, pour être sauvés du mal. Oui, le pardon de Dieu est finalement au cœur de l'invitation à la fête. Et on a entendu cette image que Jésus reprend de Zacharie, l'image de l'habit. Alors j'imagine que ce matin, on a été plusieurs à se dire voyons. Qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui? Comment je m'habille? Et c'est vrai que j'y ai pensé pendant le confinement, Parce que finalement, quand on ne sortait pas, quand on ne voyait plus personne, ça n'avait pas beaucoup d'importance qu'on s'habille de telle ou telle manière. Oui, les habits que nous revêtons parlent de l'image que nous voulons donner de nous-mêmes. C'est une façon aussi de nous intégrer, d'être en relation avec les uns avec les autres. Et on a vu ces derniers temps combien la demande du ministre de l'Éducation nationale a fait réagir, à tous les niveaux de la société d'ailleurs, quand il parlait d'une tenue républicaine. On n'en a pas reparlé ensemble, mais j'imagine que ça a dû faire pas mal discuter, surtout au collège ou au lycée, où finalement l'habit, c'est aussi un reflet de la manière dont on se construit. Et toute cette adolescence, c'est voilà, une construction de l'identité. C'est pas toujours facile, cette question des habits. En tout cas, la parabole de Jésus fait écho à l'histoire du prophète Zacharie. Le prêtre Josué est debout entre l'ange de Dieu et l'accusateur, mais le Seigneur Yahvé va réduire au silence l'accusateur. Ce prêtre Josué a des habits sales, et ces habits sales sont le symbole de sa faute, de son péché. Le pardon de Dieu est symbolisé comme les habits qu'on lui retire pour lui mettre des habits de fête. Et puis ensuite, l'ange lui recommande de marcher dans ses chemins pour être ensuite responsable de la bonne organisation du temple. Alors, dans la parabole de Jésus, que signifie cette colère du maître quand il voit qu'un homme n'a pas l'habit de fête? On se dit quand même qu'il est très dur avec lui. C'est ce qui nous choque toujours dans cette histoire. Alors, regardons d'un peu plus près. Le roi regarde et il vient voir les convives et il s'avance vers celui qui n'a pas revêtu l'habit de fête. Il lui parle et lui dit « compagnon, ami », c'est un mot amical. Et donc avant le geste, avant la décision, il y a une parole. Il y a une question. Et l'homme reste muet. Et en fait, quand on regarde le texte grec, on dit qu'il est muselé. Il ne peut rien dire, il ne peut rien répondre. Alors est-ce que vous vous souvenez que ce mot « répondre » a donné le mot en français « responsable »? Responsable, c'est répondre de soi-même. Savoir dire pourquoi on est là. Alors pourquoi cet homme est muet? Le texte ne le dit pas. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est entré sans comprendre à quel point il est accepté tel qu'il est? Qu'il est pardonné? Et puis on peut se dire peut-être ce roi ne sait pas ce qu'il veut, il veut du monde et il trouve que cet invité n'est pas à sa place, c'est pas facile. En tout cas, accepter l'invitation à la fête est notre première réponse à l'appel de Dieu. Mais cette invitation qui s'adresse à tous comporte quand même une certaine exigence. Non pas parce qu'il y a quelque chose à faire pour y entrer, mais parce que nous sommes chacun responsables de nous-mêmes. Et responsable, c'est répondre de nos actes, de nos paroles. Nous aussi, nous sommes appelés à répondre à Dieu. Car le Dieu qui nous invite est un Dieu qui nous aime, mais c'est un Dieu qui nous appelle et nous interpelle. Alors, entrer dans une communauté d'église ne nous évite pas la relation directe avec Dieu. C'est un va-et-vient continuel entre la foi personnelle d'un côté et le soutien de la communauté de l'autre. On ne peut pas se passer de l'un et de l'autre. L'un nourrit l'autre et inversement. Et d'ailleurs, nos deux sacrements disent bien ces deux dimensions. La dimension personnelle, avec le baptême et la confirmation, et puis la dimension communautaire, avec la Sainte Cène que nous prendrons tout à l'heure. Alors, habituellement, nous formons un cercle. Là, ça ne sera pas possible. Ce cercle rend visible le corps du Christ, cette communauté. Mais nous serons quand même le corps du Christ parce que nous serons en communion les uns avec les autres. Oui, nous sommes ensemble. Et il n'y a pas une personne plus importante qu'une autre. Vous l'avez entendu dans le texte tout à l'heure, il n'y a plus ni juif ni grec. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et pourtant, nous sommes tous différents. Et nous sommes appelés à assumer nos différences. En recevant le pain et le vin, l'Esprit de Dieu renouvelle pour nous le don de Jésus-Christ, son amour, son pardon. Alors aujourd'hui, André et Mathieu, vous avez revêtu vos habits de fête et des habits peut-être extérieurs, mais surtout intérieurs. On dit en français « j'ai le cœur en fête ». Vous recevez une nouvelle identité. Vous entrez dans une nouvelle famille, dans votre nouvelle famille. L'apôtre Paul le dit, vous êtes par la foi fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et c'est le même mot que pour l'habit. Alors c'est le début d'un chemin que je vous souhaite long et peut-être plein de surprises. Il y aura des épreuves et vous en avez déjà vécu. Mais vous êtes dans une église qui vous entoure et qui a comme caractéristique eh bien, d'être vivante et de garder l'équilibre entre la raison et la foi. Le propre du protestantisme, c'est cette liberté première de la liberté de conscience. C'est comme ça que le protestantisme est né. Oui, nous pouvons exercer notre esprit critique, nous pouvons découvrir les textes bibliques, leur contexte, nous pouvons réfléchir sur l'actualité, mais apprendre à réfléchir finalement, parce que donner nos arguments, ça nous apprend à les aiguiser, apprendre à réfléchir, à discuter dans le respect des uns et des autres, n'empêche pas de croire. Et c'est toujours à tenir ensemble aussi, parce que vous rencontrerez sans doute pendant vos études, peut-être d'autres jeunes qui tâcheront de vous démontrer que Dieu n'existe pas. Et vous ne pourrez pas leur prouver par A plus B que Dieu existe, parce que la foi ne se prouve pas, elle se témoigne simplement. Peut-être que vous serez troublés, peut-être que vous vous poserez la question, est-ce que cela vaut la peine de croire? Je n'ai jamais vu Dieu de mes yeux, est-ce que, en qui finalement je mets ma confiance? Ai-je pu expérimenter moi-même cette présence aimante de Dieu? Alors toutes les personnes qui vous entourent et qui sont là aujourd'hui ont une expérience personnelle avec Dieu. Et notre Église porte ensemble cette conscience que nous ne sommes pas seuls et que Jésus-Christ nous appelle à une espérance qui dépasse ce que le monde et la société peuvent offrir. Une espérance qui fait reculer notamment la peur de la mort. Alors oui, en entrant dans cette aventure de foi, eh bien, restez curieux de rencontrer cette parole qui ne nous laisse pas tranquilles. Une parole biblique que nous ne comprenons pas toujours, mais qui parle et qui parle de celui qui s'est fait parole de Dieu, Jésus-Christ. Un compagnon de route qui ne nous fait jamais défaut. Et puis, souvenez-vous que si Jésus prend l'image du festin et de la fête pour parler de l'amour de Dieu, c'est que ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux, mais c'est un moment de joie. Comme ce que nous vivons aujourd'hui. Une joie pleine qui est donnée, qui est partagée avec tous ceux qui veulent aussi faire partie de la fête. Amen.